Il est 20h à Paris. Bonsoir à tous.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, la crise en Géorgie au lendemain des élections législatives. L'opposition pro-occidentale dénonce des fraudes massives orchestrées par la Russie et appelle à des manifestations. Vive inquiétude ce soir des États-Unis et de l'Union européenne. Au Proche-Orient, Israël bombarde Gaza et le Liban après une proposition égyptienne de trêve. Les humanitaires sur place dénoncent, eux, les violations flagrantes des lois de la guerre. Après 3 ans de brouille, l'heure de la grande réconciliation franco-marocaine, le président Macron a entamé ce soir une visite d'État de 3 jours à Rabat, accueilli très chaleureusement à sa sortie d'avion par le souverain marocain Mohamed VI. Enfin, Boeing en pleine turbulence pour rembourser sa dette, l'avionneur américain se tourne vers la bourse avec des ventes d'actions évaluées à 19 milliards de dollars. La Géorgie est donc en pleine crise ce soir avec des centaines de manifestants dans les rues de la capitale, Tbilissi, au lendemain des élections législatives remportées par le parti pro-russe au pouvoir. Même si le gouvernement géorgien assure que l'intégration européenne demeure sa priorité, l'opposition pro-occidentale et la présidente Salomé Zourabichvili dénoncent des fraudes massives orchestrées par la Russie. Moscou a beau démentir toute intervention dans le scrutin, l'inquiétude est grande et partagée par les États-Unis et l'Union européenne. Julien Chavanne.
Une violation des règles internationales incompatible avec les normes attendues d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Dans un communiqué commun, 13 pays européens condamnent les irrégularités observées ce dimanche en Géorgie. Les chefs des diplomaties françaises, allemandes, polonaises ou encore finlandaises critiquent aussi la visite prématuré sur place du Premier ministre hongrois. Viktor Orban, en visite surprise à Tbilissi pour soutenir le gouvernement. Le dirigeant hongrois qui préside actuellement le Conseil européen a salué la victoire écrasante, dit-il, du parti au pouvoir. C'est bien le seul en Europe et ailleurs. Les Géorgiens ont le droit de savoir ce qui s'est passé ce week-end, exige la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Quand Paris et Berlin réclament une enquête approfondie, la mission d'observation de l'OSCE en Géorgie a dit avoir observé des cas d'achat de vote, d'intimidation d'électeurs ou encore de bourrage d'urne. Même appel à une enquête de la part des États-Unis. De son côté, la Russie a rejeté fermement ces accusations d'ingérence qu'elle qualifie tout simplement d'infondées.
La grande réconciliation franco-marocaine, le président Macron a donc atterri ce soir à Rabat, salué dès son arrivée par le roi Mohamed VI. Et une salve de 21 coups de canon pour une visite d'État de 3 jours, durant laquelle le chef de l'État français et le souverain marocain afficheront leur entente retrouvée après 3 ans de brouille. C'est la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en juillet dernier qui a permis de renouer les liens. Les deux dirigeants entendent ainsi tirer un trait sur toute une série de contentieux, des soupçons d'écoute téléphonique d'Emmanuel Macron à la diminution par 2 du nombre de visas accordés aux Marocains pour pousser Rabat notamment à reprendre désormais ses ressortissants en situation irrégulière expulsés de France. Également au cœur de ces entretiens, la relance des relations commerciales entre les deux pays. Au Proche-Orient, malgré la proposition égyptienne d'une trêve de 2 jours à Gaza, Israël poursuit ses raids sur Gaza et sur le sud Liban. De violentes frappes ont de nouveau visé cet après-midi la ville côtière de Tyr, après un raid matinal israélien qui avait déjà fait 7 morts et 17 blessés. Et parmi les civils, les travailleurs humanitaires ne sont pas épargnés. Ils dénoncent aujourd'hui les violations flagrantes des lois de la guerre dans l'escalade du conflit, qui crée, selon eux, un dangereux précédent. Des inquiétudes également formulées aujourd'hui à Barcelone, au sommet pour l'Union de la Méditerranée. Correspondance d'Élise Gazangel.
Les 43 pays membres de l'Union pour la Méditerranée se sont réunis à Barcelone ce lundi et ont centré leurs discussions sur la situation au Moyen-Orient. Mais après 1 an de conflit, les représentants politiques ont aussi fait le constat de leur échec et de leur impuissance. Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères.
Je sors de cette réunion avec un sentiment de tristesse et d'amertume, parce que nous n'avons pas réussi à éviter que cette situation empire chaque jour un peu plus, et on n'y parviendra que quand la communauté internationale arrêtera de déplorer et commencera à agir.
Son homologue jordanien Ayman Safadi a lui aussi durement critiqué la crédibilité internationale.
Israël a pu faire tout ça parce que la communauté internationale le lui a permis. Cette dernière n'a pas mis en application les résolutions des Nations Unies, elle n'a pas respecté ses valeurs humanitaires et toute cette impunité a permis à un pays membre des Nations Unies de commettre des crimes de guerre et de violer toutes les lois et les résolutions internationales.
Tous ont finalement réclamé un cessez-le-feu lors de ce sommet auquel Israël a refusé de participer. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Et ce soir, le Parlement israélien examine un texte de loi pour interdire les activités de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, ce aux grandes dames de Londres et de Washington, les Américains qui appellent ce soir à ne pas approuver ce projet de loi. La présidentielle américaine à J-8, Trump et Harris sont toujours à couteau tiré dans cette dernière ligne droite de la campagne où aucun des candidats n'a, selon les sondages, réussi à se démarquer. Une fin de campagne extrêmement âpre, marquée par les dérapages et les outrances de Donald Trump. Et cette nouvelle polémique, après des insultes proférées dans un meeting républicain par un humoriste contre les Portoricains, qualifiant leur île d'île flottante d'ordure au milieu de l'océan. L'entourage de l'ex-président américain a tenté immédiatement de se démarquer de ses propos, mais plusieurs stars nées sur l'île, comme le prince du reggaeton Bad Bunny ou bien encore le chanteur Ricky Martin, ont en tout cas montré leur soutien à Kamala Harris en dénonçant le racisme du candidat républicain. En Asie, l'ancien président philippin a fermement défendu ce lundi sa guerre anti-drogue lors d'une audition au Sénat. Cette campagne meurtrière lancée par Rodrigo Duterte en 2016 et qui a fait des milliers de victimes fait l'objet d'une enquête de la sous-commission sénatoriale, une première dans le pays. Les précisions de Yelena Tomic.
Ne remettez pas en question ma politique, car je ne m'excuserai pas. J'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai fait pour mon pays. C'est ainsi que Rodrigo Duterte a défendu sa campagne anti-drogue, qui aurait fait au moins 6 000 morts selon les données philippines, et entre 12 000 et 30 000 morts selon les estimations des procureurs de la CPI. Car la Cour pénale internationale a également ouvert une enquête sur cette campagne meurtrière, susceptible de constituer un crime contre l'humanité. Lors de cette première audience devant le Sénat, Duterte a expliqué que sa campagne ne visait pas à tuer des gens, mais à protéger les innocents et les personnes sans défense. Des propos qui vont à l'encontre des témoignages des familles des victimes et des rapports d'ONG qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires menées par la police et des tueurs à gages dans les quartiers les plus pauvres des Philippines en proie à la drogue. Cette convocation s'inscrit dans un contexte de rivalité entre les puissants clans, Marcos et Duterte, à quelques mois des élections de mi-mandat.
Sur le front économique, l'avionneur américain Boeing en grande difficulté qui cherche à se remplumer. Il a annoncé aujourd'hui une augmentation de son capital, opération de vente d'actions estimée à 19 milliards de dollars pour rembourser sa dette. Les précisions, Alexis Bédu.
Boeing bat de l'aile et recherche des liquidités. L'avionneur américain connaît de graves problèmes de trésorerie après des années de mauvais résultats. Il a subi de gros dépassements de coûts, notamment dans le développement du 787, défaillance dans la stratégie, un déficit qui atteint les 8 milliards de dollars depuis le début de l'année. Ajoutez à cela la grève sur les deux principaux sites de production du 737 Max, la vache à lait de Boeing qui entre dans sa septième semaine. La nouvelle directrice générale, Kelly Ortberg, avait besoin d'un rebond. D'où cette augmentation de capital, 90 millions d'actions ordinaires. Mais ces actions trouveront-elles preneur? Certes, le carnet de commandes, notamment dans l'aviation civile, est séduisant. Il représente un potentiel futur flux de trésorerie. Mais les activités défense du groupe sont au plus mal. Quant aux activités spatiales, Boeing envisage de les céder après l'échec du programme Starliner. C'est ce qu'on apprenait vendredi dans le Wall Street Journal. La piste du redressement est encore longue et sinueuse.
Enfin, en France, on l'a appris ce soir, le Premier ministre Michel Barnier a été opéré ce week-end d'une lésion cervicale dont les résultats de l'analyse seront connus d'ici quelques semaines. Tout s'est très bien passé, assure Matignon, qui souligne que Michel Barnier a repris normalement son travail aujourd'hui.